Radio Vatican, France et Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée dimanche 18 avril, notamment par la prière mariale de Regina Coeli. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Tchad, au Cap-Vert et au Nigeria, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
À la prière mariale de Regina Coeli, dimanche 18 avril, le pape a expliqué que la foi chrétienne se vit dans le contact direct. De retour à la fenêtre du palais apostolique pour la première fois depuis le 14 mars, le pape François a prononcé sa méditation du Regina Coeli en insistant sur l'importance pour les chrétiens de vivre une foi incarnée, concrète, sans distance. En ce troisième dimanche de Pâques, nous retournons à Jérusalem, au Cénacle, comme guidés par les deux disciples d'Emmaüs qui avaient écouté avec beaucoup d'émotion les paroles de Jésus sur la route et l'avaient ensuite reconnu à la fraction du pain, a expliqué le pape. Les disciples se sont d'abord montrés incrédules, mais Jésus, en se laissant regarder et toucher et en partageant le repas avec eux, démontre qu'il n'est pas un pur esprit ou un fantôme, mais bien une personne réelle. Cette page d'évangile est caractérisée par trois verbes très concrets qui reflètent en quelque sorte notre vie personnelle et communautaire. Regarder, toucher et manger. Trois actions qui peuvent donner la joie d'une vraie rencontre avec Jésus vivant, a souligné le pape. Regarder est le premier verbe de l'amour, a-t-il poursuivi. Jésus invite les disciples à le regarder. Regarder n'est pas seulement voir, c'est plus. Cela implique aussi une intention, une volonté, a remarqué François. C'est pourquoi il est l'un des verbes de l'amour. La maman et le papa regardent leurs enfants, les amoureux se regardent l'un l'autre, un bon médecin regarde son patient avec attention. Regarder est un premier pas contre l'indifférence, contre la tentation de détourner le visage des difficultés et des souffrances des autres. Mais ce n'est qu'une première étape. En invitant les disciples à le toucher, à voir qu'il n'est pas un fantôme, Jésus leur indique ainsi qu'à nous que la relation avec lui et avec nos frères et sœurs ne peut rester à distance, au niveau du regard. Il n'existe pas de christianisme à distance sur le plan du seul regard, a insisté le pape, en ce temps de distanciation et de virtualisation des rapports. Pour beaucoup, rend le manque de contact physique frustrant et douloureux. L'amour demande la proximité, le contact, le partage de la vie, a répété François en reprenant une nouvelle fois l'exemple du bon samaritain qui ne s'est pas contenté de regarder l'homme qu'il a trouvé à moitié mort le long de la route. Il s'est penché, il l'a touché, il a pansé ses blessures, l'a chargé sur son cheval et l'a amené à l'auberge. Il en va de même pour Jésus. L'aimer signifie entrer dans une communion vitale et concrète avec lui. Le banquet eucharistique est un signe de l'incarnation de Jésus. Enfin, manger est une nécessité vitale, mais quand on le fait ensemble, en famille ou entre amis, cela devient aussi une expression d'amour, de communion, de fête. Combien de fois les évangiles nous montrent Jésus vivant cette dimension conviviale, y compris après la résurrection, au point que le banquet eucharistique est devenu le signe emblématique de la communauté chrétienne. Manger ensemble le corps du Christ, c'est le centre et le cœur de la vie chrétienne, a insisté l'évêque de Rome. Frères et sœurs, cette page de l'Évangile nous dit que Jésus n'est pas un fantôme, mais une personne vivante. Et quand Jésus se rapproche de nous, il nous remplit de joie, a insisté François. Être chrétien n'est pas d'abord une doctrine ou un idéal moral, c'est une relation vivante avec lui, avec le Seigneur ressuscité. Nous le regardons, nous le touchons, nous nous nourrissons de lui et transformés par son amour, nous regardons, touchons et nourrissons les autres en tant que frères et sœurs. Que la Vierge Marie nous aide à vivre cette expérience de la grâce, a-t-il conclu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
À l'issue de la prière mariale du Regina Coeli, le pape a appelé à la désescalade dans l'est de l'Ukraine. Des mouvements militaires inquiétants ont en effet été observés ces derniers jours autour de la région du Donbass, laissant craindre des combats de grande ampleur. François a également rendu hommage aux six moines cisterciens de l'abbaye de Casamari en Italie, victimes de militaires français en 1799, qui ont été béatifiés samedi lors d'une messe présidée par le cardinal Semeraro, préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Passons à présent à la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Commençons cette rétrospective par le Bénin où notre correspondant nous rapporte la célébration eucharistique présidée par l'archevêque de Cotonou, Mgr Roger Umbedi, en l'église paroissiale Sainte-Marie-Rosa Mystica de Wawata Nzuto, le dimanche de la Divine Miséricorde.
Dans le cadre de la pastorale de proximité avec ses brebis, l'archevêque de Cotonou au Bénin, Mgr Roger Umbedi, a célébré le dimanche 11 avril 2021 en l'église paroissiale Sainte-Marie-Rosa Mystica de Wawata Nzuto, un village du vicariat de Zivier sous le regard du vicaire forain, le père Gad Aïna, et en présence du curé de la paroisse, le père Rodrigue Dan. Au-delà de la joie et de la ferveur de la foule immense des fidèles, entretenue par les chants des diverses chorales et de l'homélie du prélat en une langue de la localité qui ont marqué la célébration dominicale, la communauté paroissiale a tenu à manifester sa reconnaissance au prélat.
La paroisse Rosa Mystica de Bouto se réjouit beaucoup de votre présente visite et s'exclame avec le salut ce jour que fit le Seigneur est un jour de fête, jour de joie.
Mais Mgr Umbedi n'a pas voulu occulter la coïncidence de la fête de la miséricorde divine de ce 11 avril 2021 avec l'actualité électorale présidentielle au Bénin.
Le pays est un pays béni parce que toutes les fois où nous avons eu des élections par le passé, on a toujours fait tout notre possible pour miser toutes nos actions sur la paix, sur l'unité, la cohésion, sur l'entente. Il n'y a jamais eu de division au point que le pays entre dans une violence comme nous l'avons vécu ces derniers temps, que nous déplorons encore aujourd'hui. Nous savons que le Seigneur est là et qu'il va nous aider à garder notre cohésion, notre unité et notre paix.
Guy Dosuyovo, Cotonou, pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, la Commission nationale justice, paix et environnement a célébré le dimanche 11 avril, le dimanche de la Divine Miséricorde, l'édition 2021 de sa journée nationale des détenus. La messe solennelle a eu lieu à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Divo dans l'archidiocèse de Gagnoa. Dans son message rendu public par le père Charles Olidjo Siwa, aumônier national de la pastorale des prisons, Mgr Bruno Essoyedo, président de la dite commission épiscopale, dénonce la surpopulation en milieu carcéral dans les prisons ivoiriennes et appelé à la mise en place d'une véritable civilisation de l'amour qui brise toutes les barrières d'exclusion pour affermir les liens de la fraternité universelle.
En lieu place de l'homélie, le père Charles Olidjo Siwa, l'aumônier national de la pastorale des prisons de Côte d'Ivoire, a livré le message de Mgr Bruno Essoyedo, président de la commission épiscopale de la pastorale sociale, à l'occasion de cette célébration. Au nom de ses pères dans l'épiscopat, Mgr Bruno Essoyedo a traduit toute la reconnaissance de l'Église aux autorités politiques et administratives ivoiriennes pour tous les efforts qui se font à l'endroit des détenus qui vont dans le sens de la sollicitude et la tension qui se dégage de la célébration de cette solennité. Vu la la surpopulation et les conditions de vie difficiles des détenus constatées dans les prisons ivoiriennes, l'Église encourage les pouvoirs publics à porter une attention toute particulière sur les maisons d'arrêt et de correction qui, pour la plupart, souffrent d'un état de surpopulation inquiétante, fait savoir le père Charles Olidio Siwa. Une situation qui, selon l'aumônier national de la pastorale des prisons de Côte d'Ivoire, porte gravement atteinte à la dignité de la personne humaine qui, en tout moment et en toute occasion, doit être préservée. Pour ce faire, l'Église, dans sa portée de mère, sollicite, dit-il, de la part des pouvoirs publics, un acte de clémence, de miséricorde vis-à-vis des pensionnaires qui sont en situation de détention préventive et qui peuvent bénéficier d'une grâce présidentielle. Pour lui, il est donc temps d'accélérer au sein de l'Église et dans notre société ivoirienne la mise en place d'une véritable civilisation de l'amour qui brise et toutes les barrières d'exclusion pour raffermir les liens de fraternité universelle. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Burkina Faso, notre correspondant local nous rend compte de l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques.
Afin d'approfondir certaines questions socio-pastorales soulevées à leur Assemblée plénière ordinaire du mois de février dernier, les évêques du Burkina Faso se sont retrouvés en assemblée plénière extraordinaire du 12 au 15 avril 2021 à leur siège à Ouagadougou. Pour des raisons évidentes de fermeture de frontières du fait de la COVID-19, les évêques du Niger ont été absents de cette assemblée extraordinaire dont voici la substance avec le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Mgr Laurent Dabiri.
À l'occasion de cette assemblée extraordinaire, nous nous sommes intéressés à la situation nationale pour ce qui regarde la cohésion sociale et la réconciliation, pour partager des idées sur la contribution de l'Église à ce mouvement de réconciliation et à cette construction de la paix et de la cohésion sociale. Et cela a été vraiment réconfortant pour les évêques de pouvoir partager ces idées et d'entreprendre des actions dans ce sens.
Parmi les thèmes majeurs, on peut citer entre autres la problématique des personnes déplacées internes, la question de l'orpaillage avec ses conséquences sur l'environnement et enfin la question du dialogue avec l'islam. Mgr Laurent Dabiri.
Pour ce qui concerne le dialogue avec l'islam, il s'agit d'un approfondissement, d'ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration avec nos frères musulmans afin que, en tant que croyants, nous puissions nous retrouver sur une certaine plateforme et donner notre contribution à l'édification d'une société burkinabé où la vie est respectée.
Paul Dawagadougou pour Radio Vatican.
Au Sénégal, notre correspondant nous rend compte de la profession des vœux perpétuels chez les sœurs de la charité de Saint-Charles de Nancy.
La congrégation des sœurs de la charité de Saint-Charles de Nancy s'est enrichie de deux nouveaux membres ce samedi 10 avril. Les sœurs Marie-Annick Sambou et Myriam Pauline Diédjou ont fait profession perpétuelle à la cathédrale Notre-Dame des Victoires dans le diocèse de Kolda. La messe a été présidée par l'ordinaire du lieu, Mgr Jean-Pierre Bassène. Dans son homélie, Mgr Bassène s'est adressé aux nouvelles professes en ces termes.
Chaque sœur doit se sentir responsable et promouvoir cette vie de communion qui favorise la vie fraternelle. Ma sœur en communauté est un cadeau que Dieu me fait. À chacune des sœurs de créer un climat de détente, de fête,
Mgr Bassène a également insisté sur les exigences de la vie fraternelle communautaire.
Cette vie commune nous invite à la confiance mutuelle et à l'entraide, au partage des joies et des peines, à la disponibilité et à l'acceptation de toutes les exigences inhérentes aux relations humaines. Elle nous invite aussi à nous aimer jusque dans nos défauts et nos défaillances, dans la reconnaissance de nos différences, ce qui nous rendra plus capables de pardonner, de vivre en communion, comme de réconcilier par la route.
Clément Awandjinou, Dakar, pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, la rencontre entre Mgr Melchisedek Sikouli, évêque de Boutembo-Béni, et M. Kassim Diagne, numéro 2 de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, nous a été rapporté par notre correspondant local.
Au diocèse de Boutembo-Béni, dans la province du Nord Kivu, l'évêque a reçu en audience le mardi 13 avril Kassim Diagne, le numéro 2 de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Les deux personnalités ont notamment évoqué la situation de crise qui a mis dans les rues des villes du Nord Kivu des manifestants demandant le départ des forces des Nations Unies. La MONUSCO doit réorienter ses actions en vue de satisfaire les habitants sans défense. De nouvelles promesses de la MONUSCO doivent se matérialiser sur le terrain, selon Mgr Melchisedek Sikuli. L'évêque de Butembo-Beni en appelle également à un nouvel engagement ferme du nouveau gouvernement de la République et en particulier du chef de l'État.
Et la priorité, c'est de mettre tous les Congolais où ils se trouvent dans des conditions de paix, de tranquillité, de sécurité. Et en commençant par ci, la terre est en train de brûler. Donc il y a des morts chaque jour. Et à Goma, il y en a eu. Il y a le chef de l'État qui est le commandant suprême et de l'armée. Celui qui doit répondre de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de tout le reste. Il faut qu'il agisse. Les promesses qu'il a données, les gens n'attendent que ça.
Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La population du Cap-Vert s'est rendue aux urnes dimanche pour élire les députés lors de législatives où l'impact de la pandémie sur le secteur touristique et l'économie risque de déterminer le vote. La pandémie de coronavirus a mis à terre l'économie de cet archipel très dépendant du tourisme, qui représente 25% de son produit intérieur brut, le Cap-Vert ayant enregistré en 2020 une récession historique de 14,8%. L'armée tchadienne a affirmé avoir détruit samedi une colonne de rebelles qui a attaqué le nord du pays le 11 avril, jour de l'élection présidentielle. Les forces de défense et de sécurité ont complètement détruit la colonne des rebelles qui s'est aventurée dans le nord Kanem, a assuré l'état-major dans un communiqué lu à la télévision nationale par son porte-parole Azem Bermandoa Aguna. 5 soldats nigérians ont été tués et 4 blessés dans l'attaque d'une base militaire du nord-est du Nigeria par des djihadistes liés au groupe État islamique, à la suite de laquelle une soixantaine de militaires sont portés disparus. Des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont mis en déroute les troupes occupant un camp dans le village de Kamouya, à 35 km de Biou, chef-lieu du district du même nom dans l'État nigérian de Borno.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Au moins 19 personnes ont été tuées samedi soir au Niger au cours d'une attaque contre le village de Gaïgourou dans la région de Tillabéri, proche du Mali. On a un bilan pour l'instant, on est au 19e corps et il y a eu 2 blessés lors de cette attaque de Gaïgourou par des hommes armés venus à moto, a déclaré un responsable de la municipalité de Dessa qui administre le village de Gaïgourou. Le père jésuite Martin Baati continue de nous présenter l'encyclique du pape François Fratelli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons la lecture du 2e chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Nous lisons ensemble le 4e point qui se concentre sur les personnages de la parabole du bon samaritain. Selon l'encyclique, le récit commence par une allusion au brigand et le point de départ que Jésus présente est une agression déjà consommée. Partant de cette image, le pape montre que nous avons vu avancer dans le monde les ombres épaisses de l'abandon, de la violence au service d'intérêts mesquins de pouvoir, de cupidité et de clivage. La question pourrait être celle-ci. Laisserons-nous gisant à terre l'homme agressé pour courir chacun nous mettre à l'abri de la violence ou pour poursuivre les brigands? L'homme blessé sera-t-il la justification de nos divisions irréconciliables, de nos indifférences cruelles, de nos affrontements internes? L'encyclique propose ensuite de poser un regard franc sur ce qui passe outre. Innocente ou non, cette indifférence redoutable consistant à passer son chemin, fruit du mépris ou d'une triste distraction, fait des personnages du prêtre et du lévite un reflet non moins triste de cette distance pour s'isoler de la réalité. Et le pape de démontrer qu'il existe de nombreuses façons de passer outre qui se complètent. L'une consiste à se replier sur soi-même, à se désintéresser des autres, à être indifférent. Un autre est de ne regarder que dehors. En ce qui concerne cette dernière façon de continuer son chemin, dans certains pays ou milieux, il y a un mépris envers les pauvres et envers leur culture, et un mode de vie caractérisé par le regard dirigé vers l'extérieur, comme si on tentait d'imposer de force un projet de société importé. Le pape souligne un détail à ne pas ignorer des personnes qui passent outre. Il s'agit bel et bien des personnes religieuses. Mieux, ils œuvraient au service du culte de Dieu. Un prêtre, un lévite. Le pape pense que c'est un avertissement fort. C'est le signe que croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. Une personne de foi peut ne pas être fidèle à tout ce que cette foi exige d'elle. Et pourtant, elle peut se sentir proche de Dieu et penser avoir plus de dignité que les autres. Le paradoxe, c'est que parfois, ceux qui affirment ne pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants. En parlant des brigands de la route, l'encyclique affirme qu'ils ont souvent comme alliés secrets ceux qui passent outre en regardant de l'autre côté. Le cercle est fermé entre ceux qui utilisent et trompent la société pour la dépouiller et ceux qui croient rester purs dans leurs fonctions importantes, mais en même temps vivent de ce système et de ses ressources. C'est une triste hypocrisie que l'impunité du crime, de l'utilisation d'institutions à des fins personnelles ou corporatives, affirme le pape. On alimente la désillusion, le désespoir, ce qui n'encourage pas un esprit de solidarité et de générosité. Le pape juge qu'enfoncer un peuple dans le découragement, c'est boucler un cercle pervers parfait. C'est ainsi que procède la dictature invisible des vrais intérêts cachés qui s'empare des ressources et de la capacité de juger et de penser. À la fin de ce quatrième point, le pape nous invite à regarder l'homme blessé. Parfois, stipule l'encyclique, nous nous sentons comme lui, gravement blessés et gisant à terre au bord du chemin. Nous nous sentons aussi troublés par nos institutions désarmées et démunies, ou mises au service des intérêts d'une minorité, de l'intérieur et de l'extérieur. En effet, souligne le pape, dans la société globalisée, il y a une manière élégante de tourner le regard de l'autre côté qu'on adopte souvent, sous le couvert du politiquement correct et de modes idéologiques. On regarde celui qui souffre sans le toucher. On le voit à la télévision, en direct. Et même on utilise un langage apparemment tolérant et plein d'euphémismes.
Le magazine sur la femme nous conduit au Soudan, où elles poursuivent des manifestations en vue de la réforme sociale. Non aux lois discriminatoires envers la femme, contre l'obscurantisme qui vise les femmes et les fillettes. Nous appelons le gouvernement à avoir le courage de poursuivre la civilisation de l'État, indique la coalition des organisations féministes dans un document adressé au Premier ministre et au ministre de la Justice. Elle y insiste également sur la nécessité d'abroger des lois discriminatoires et d'adopter les chartes et traités internationaux portant sur l'égalité des genres dans tous les amendements et les réformes législatives et politiques. Le pays est dirigé depuis août 2019 par un gouvernement de transition avec un premier ministre civil et un conseil de souveraineté composé de civils et de militaires. Ce conseil est chargé de mener à bien une transition vers un régime entièrement civil à l'horizon 2022. Depuis le début des manifestations qui ont entraîné la chute d'Omar El-Béchir, Les femmes soudanaises sont au cœur des rassemblements à Khartoum. Elles ont un rôle important dans l'organisation du sit-in qui continue devant le quartier général de l'armée. L'une d'entre elles est même devenue l'icône du pays depuis la diffusion d'une photo. Il s'agit de Alara Salah, une étudiante en architecture et ingénierie à l'Université internationale du Soudan à Khartoum. Les femmes soudanaises ont un rôle actif dans ce qu'il se passe. Initiatrices de manifestations, elles ont aussi des rôles dans l'organisation du sit-in devant le quartier général de l'armée. Dans un poste de soins, elles s'occupent notamment des blessés. La parole à Donatien Niembo pour la revue de la presse catholique en Afrique.
Dissension autour de la gestion d'un hôpital catholique de Yaoundé, a titré la Croix Africa dans les colonnes de son édition du jeudi 16 avril dernier. Depuis presque 2 ans, le centre médical catholique portant le nom de l'ancien archevêque de Yaoundé, Mgr Jean Zoa, construit au sein du centre d'animation sociale et sanitaire à Yaoundé, fait l'objet d'une dissension dans sa gestion et son contrôle, écrit la Croix Africa. Monseigneur Bienvenu Manamika a rencontré les prêtres de l'archidiocèse en mission en Europe. C'est ce qu'a titré la Semaine africaine dans les colonnes de son édition du mardi 13 avril 2021. La date choisie pour cette rencontre de prière et de travail, pouvait-on lire, marquait le 44e anniversaire de la mort du cardinal Émile Biayenda, assassiné le 22 mars 1977, sous cette symbolique du martyr du bon cardinal. Soudan du Sud, l'archevêque Loukoudou salué comme un leader serviteur et un phare de la paix. Pouvait-on lire sur la online newsletter de la MECEA, association de membres des conférences épiscopales de l'Afrique de l'Est.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boabolo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.
Alléluia, Alléluia.